France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Donald Trump veut verser 2 000 $ à tous les Américains sauf les plus riches. Sonné par une série de défaites électorales, le locataire de la Maison Blanche sort le carnet de chèques avant les élections de mi-mandat. Nous serons à Washington dans un instant. Le dossier de la rédaction consacré ce soir au récit de la Grande Guerre en ce 11 novembre. Au mémorial de Verdun, le public cherche désormais des histoires individuelles plutôt que l'histoire avec un grand H. Dossier préparé par Chloé Le Prince. En Pologne, le 11 novembre marque la fête nationale du pays. À Varsovie, la droite ultranationaliste s'est emparée de la grande marche de l'indépendance en présence du nouveau président polonais Karol Nawrocki. Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, interdit les publicités politiques et sociales sur ses réseaux. Une catastrophe pour de nombreuses associations qui dénoncent une censure déguisée. Les États-Unis s'apprêtent à tourner la page du plus long shutdown de leur histoire. Plus de 40 jours de paralysie budgétaire qui s'achèveront demain par un vote de la Chambre des représentants pour financer le gouvernement jusqu'à la fin janvier. Donald Trump a réussi à débaucher quelques élus démocrates pour bâtir une majorité de circonstances au Congrès. Un soulagement pour le président américain encore ébranlé par les revers électoraux de la semaine dernière. Trump qui multiplie les promesses pour rassurer la population américaine à moins d'un an des élections de mi-mandat. Franck Mathevon nous appelle de Washington.
Bien sûr, Donald Trump peut se féliciter de la fin probable du shutdown demain. 8 sénateurs démocrates ont accepté de rouvrir le gouvernement pour payer à nouveau les fonctionnaires et distribuer l'aide alimentaire dont dépendent des millions d'Américains. Mais les échecs électoraux des Républicains il y a une semaine ont mis en lumière l'enjeu central du coût de la vie. Que ce soit pour la mairie de New York ou les postes de gouverneur en Virginie et dans le New Jersey, les sondages montrent que l'économie a pesé lourd dans le choix des électeurs qui attribuent à l'administration Trump la responsabilité de prix élevés. L'inflation est contenue mais atteint tout de même 3% sur un an et les Américains ne voient pas la note baisser au supermarché. Les prix de la viande et de certains fruits et légumes ont même nettement augmenté. Donald Trump consacre donc beaucoup d'énergie à défendre son bilan économique depuis la semaine dernière. Il envisage des mesures dont il ne détaille pas les modalités. Un chèque de 2 000 $ financé par les droits de douane pour tous les Américains, sauf les plus riches. Son ministre des Finances, Scott Bessent, a précisé que ce serait peut-être sous la forme de cadeaux fiscaux déjà accordés. Le président américain a aussi suggéré des crédits immobiliers sur 50 ans, une idée critiquée au sein de son propre camp. Il reste un an à Donald Trump jusqu'aux élections de mi-mandat pour convaincre les Américains qu'il a amélioré leur pouvoir d'achat. La manne des droits de douane pourrait servir sa cause, mais d'après les débats lors d'une audience la semaine dernière, la Cour suprême pourrait au moins en partie les annuler.
Franck Mathevon, correspondant aux États-Unis, Donald Trump qui avait accusé il y a quelques jours la Russie de mener des essais nucléaires souterrains sans en parler. Réponse de Moscou ce soir, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, réfute les accusations du président américain, mais il propose d'en discuter directement avec ceux qu'il appelle ses collègues américains. Sergueï Lavrov a aussi critiqué les dernières frappes américaines sur des bateaux de narcotrafiquants présumés. Frappe inacceptable selon lui. Depuis le mois de septembre, les États-Unis ont tué 76 personnes dans les Caraïbes et le Pacifique. Emmanuel Macron a présidé ce matin à l'Arc de Triomphe à Paris les cérémonies du 11 novembre, le 107e anniversaire de l'armistice de 1918 mettant fin à la Première Guerre mondiale. Comment enseigner cette mémoire plus d'un siècle après, alors que les derniers témoins ont disparu? C'est la mission du mémorial de Verdun, un lieu qui a connu une importante refonte en 2023. Il a accueilli l'an dernier 300 000 visiteurs, dont 72 000 scolaires. Bonsoir Chloé Le Prince.
Bonsoir.
Au mémorial de Verdun, la transmission de l'histoire a évolué. Le récit national n'est plus une priorité, Chloé. Le public cherche des histoires personnelles de la Grande Guerre.
Oui, une ambiance mémorielle nouvelle, une demande sociale d'histoire qui a changé. C'est comme ça que l'historien François Cochet résume la manière dont se sont décalées les attentes du public du mémorial de Verdun, qu'il préside aujourd'hui et qui existe depuis 1967.
Avec peut-être les prémices dans les années 1975, c'est-à-dire le moment où les anciens combattants disparaissant massivement, les regards sociaux sur la Grande Guerre changent. Les années de basculement du soldat héros au soldat victime correspondent aussi à la fin de ce que certains ont appelé le roman national, et donc à d'autres mises en récit. Il y a toute cette réflexion sur les mutineries, sur la désobéissance, etc. Et il me semble qu'à partir des années 75, on a un changement de regard sur la Grande Guerre.
Or, ce changement de regard touche aussi les familles, les descendants des combattants.
C'est-à-dire que les familles commencent à s'intéresser à la guerre, non pas par le biais des grands généraux, des batailles, des actes héroïques, etc. Non plus une figure patriotique, des figures patriotiques, mais des figures du sensible. C'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser à l'endroit où a combattu l'arrière-grand-père, à l'endroit où il a été blessé, à l'endroit où il est mort. C'est un processus que j'appelle moi de privatisation, en quelque sorte, de la mémoire de la Grande Guerre. Et ça va s'accélérer, effectivement, avec le phénomène centenaire. Je faisais partie du Conseil scientifique national, et j'étais à la commission des projets mémoriels, et on a bien vu ce qui remontait, si vous voulez, du terrain, des départements notamment, et c'était effectivement des demandes très fortement orientées sur une mémoire du sensible, une mémoire familiale, une mémoire collective du sensible.
Et c'est toute la narration qui a évolué dans la foulée. La muséographie du mémorial de Verdun a été repensée de fond en comble en 2016. François Cochet.
Un des objectifs que nous poursuivons, c'est de faire venir vraiment les familles avec des ateliers qui leur sont consacrés. L'ancienne muséographie datée de 67, elle était vraiment très, très vieille et dépassée, avec justement comme figure de fond le soldat héroïque qui passait, si vous voulez, par le biais, par exemple, de la recherche du réalisme. Et ces procédés de muséographie étaient complètement dépassés et ne parlaient plus.
Et le récit de la Grande Guerre, Chloé, a récemment été un objet de controverse.
Oui, ce tournant sensible coïncide aussi avec une évolution au sein de la discipline à la faveur de l'émergence de l'histoire culturelle ou histoire des représentations. Ça remonte aux années 1990 et c'est à ce moment-là que ce qu'on a pris l'habitude d'appeler l'histoire bataille s'est trouvé quelque peu ringardisé. Mais François Cochet, lui, revendique de faire vivre une certaine histoire bataille, les deux pieds dans les archives et un savoir précis, positiviste même, qui ne doit pas disparaître pour lui, pourvu qu'on le fasse un peu évoluer. François Cochet.
L'histoire bataille, on ne peut pas s'en priver, mais on peut la renouveler complètement. Si vous ne comprenez pas le déroulé des différentes batailles de Verdun, parce que ce sont des batailles emboîtées les unes dans les autres sur un an et demi, vous ne comprenez pas ce qu'ont pu ressentir les soldats qui y combattaient. Contrairement à certains collègues, d'ailleurs, je ne nie pas la dimension nécessaire de la narration de la bataille. Mais il faut la rendre intelligible et il faut comprendre comment des soldats ont accepté des conditions absolument horribles de combat et de survie dans ce qui restait de tranchées. Et il faut projeter cela sur des comportements sur le terrain. Je constate simplement qu'il s'agit d'un phénomène franco-français. Hein. Vous n'avez pas eu le même dénigrement de l'histoire bataille, par exemple en Grande-Bretagne ou en Allemagne.
L'historien François Cochet répondait à Chloé Leprince. La cérémonie du 11 novembre ce matin à Paris. On en reparle après ce journal dans Question du soir avec Quentin Lafay. Quentin Lafay qui évoquera l'hommage d'Emmanuel Macron aux incorporés de force, les Alsaciens Mosellans, incorporés de force dans l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. En Pologne, le 11 novembre 1918 est aussi une date historique. Le pays retrouvait ce jour-là toute son indépendance après 123 ans de partage entre la Russie, l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois. Le 11 novembre est devenu fête nationale en Pologne, mais ces dernières années, la célèbre marche de l'indépendance à Varsovie est récupérée par la droite ultranationaliste et des hooligans n'hésitent pas à provoquer des incidents. Aujourd'hui, l'événement a été marqué par la présence dans le cortège du nouveau président polonais, le nationaliste Karol Nawrocki. Le reportage à Varsovie d'Adrien Sarla.
Un trait blanc sur un trait rouge, Halina dessine le drapeau polonais sur les joues de sa petite fille.
Vous en voulez ? Je peux vous maquiller, vous aussi.
Elle est venue célébrer l'indépendance de la Pologne en famille et se réjouit de la présence du président dans le cortège.
J'ai voté pour lui. On a enfin quelqu'un de sensé à la tête du pays. C'est quelqu'un de fort. Il va remettre de l'ordre en Pologne.
Mais Elżbieta, qui fait le déplacement chaque année, s'inquiète pour la sécurité du président.
J'espère qu'il ne sera pas au milieu de la foule, mais plutôt dans un endroit en sécurité. J'ai un peu peur pour lui. Vous avez bien vu ce qui est arrivé à Trump.
Car depuis plusieurs années, la marche qui entend commémorer l'indépendance du pays après la Seconde Guerre mondiale est devenue le rendez-vous annuel des groupuscules d'extrême droite polonais, mais aussi européens. À travers les fumigènes, des croix celtiques et autres symboles suprémacistes et néo-nazis flottent au milieu des drapeaux polonais. En passant devant une banderole « Stop à l'immigration, c'est l'heure de la déportation », Rafał acquiesce en signe d'approbation.
Le président ne risque rien avec nous. Il est l'un des nôtres. On voit bien que c'est un vrai Polonais et il a la Pologne dans le cœur.
Comme beaucoup ici, il voit en sa présence une bonne augure pour les élections législatives dans 2 ans. Les sondages prédisent déjà une victoire d'une coalition d'extrême droite. Aujourd'hui, plus de 6 Polonais sur 10 de moins de 25 ans disent avoir une image positive de cette marche nationaliste.
Adrien Sarla, correspondant de France Culture en Pologne. Jusqu'où ira l'acharnement de la justice turque contre le maire d'Istanbul, incarcéré depuis le mois de mars, Ekrem İmamoğlu est poursuivi officiellement pour 142 infractions et il risque jusqu'à 2430 ans de prison. Principal opposant de l'actuel président turc Erdogan, Ekrem İmamoğlu avait été arrêté pour corruption. C'est une première. La Banque Centrale Européenne sanctionne un établissement bancaire pour sa gestion du risque climatique. En l'occurrence, l'espagnol Abanca, qui va devoir s'acquitter d'une pénalité d'une centaine de milliers d'euros. Le montant est relativement modeste, mais il a une valeur exemplaire. Au moment où se tient à Belém, au Brésil, la COP30, la conférence de l'ONU sur le climat. Annabelle Grelier, en matière de gestion du risque climatique, d'autres banques, et notamment françaises, sont dans le collimateur de la BCE.
Pour la BCE, il y a 2 catégories de risques climatiques. Ceux dits physiques, c'est par exemple de l'immobilier qui pourrait être soumis à des événements météorologiques extrêmes, comme les sécheresses ou encore les tempêtes, les inondations, menaçant la valeur de certains actifs et par ricochet, la stabilité du système financier. En parallèle, il existe de forts risques dits de transition qui pèsent aussi sur les banques. Ce sont tous les actifs liés au secteur des énergies fossiles exposés à une dévalorisation rapide et massive en cas de durcissement des politiques climatiques. Dans son rôle de superviseur du système bancaire, la BCE exige des banques européennes qu'elles évaluent leur exposition à ces 2 risques. Et ce, depuis 2020. Elles sont encore nombreuses à traîner des pieds. Alors, fini la pédagogie, la première sanction vient enfin de tomber, se félicite Clarisse Murphy de Reclaim Finance.
Le message plus large, c'est aussi que la BCE ne perd pas le cap. Elle ne se laisse pas impressionner par les pressions, notamment politiques actuelles. Aujourd'hui, on a des pressions notamment qui viennent de la Fed et du gouvernement Trump, qui refusent complètement de reconnaître les risques climatiques comme un vrai problème. On a aussi des pressions en Europe, avec des attaques de plus en plus fréquentes sur finalement la légitimité de la BCE à agir sur les questions climatiques. C'est effectivement une première étape, c'est une étape importante, mais on ne peut pas s'arrêter là. Peut-être la première chose à quand même remarquer, c'est que la BCE elle applique une sanction à une banque qui est relativement petite, et du coup une banque qui, au final, elle contribue peu au problème qui est sous-jacent. Si on regarde en fait les banques françaises, aujourd'hui, malheureusement, elles allouent 50% de plus de financement en fait aux énergies fossiles par rapport aux énergies soutenables.
La menace d'une telle sanction a été évoquée cet été au sujet du Crédit Agricole. Une vingtaine de banques seraient concernées. Reclaim Finance espère que d'ici 2027-2028, la BCE s'attaquera directement au financement à risque climatique des banques via la mise en place de leur plan de transition.
Annabelle Grelier, merci. Sur la COP 30, on retiendra ce soir ces propos de Gavin Newsom, le gouverneur de Californie présent à Belém. Un président démocrate à Washington réintégrerait sans hésitation les États-Unis dans l'accord de Paris, a-t-il affirmé à l'AFP. Gavin Newsom est l'un des plus farouches opposants à Donald Trump, le président américain qui a une nouvelle fois retiré les États-Unis de cet accord de Paris qui vise à limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique. Dans l'actualité française, les patrons prennent la plume pour écrire au Premier ministre. 13 organisations patronales, dont la principale, le MEDEF, qui contestent les choix budgétaires de Sébastien Lecornu. Elles évoquent une immense inquiétude face à un projet de budget qui prévoit au total, selon leur courrier, une hausse de la fiscalité de 53 milliards d'euros. Parmi les organisations signataires, il y a France Industrie, qui défend les intérêts des entreprises industrielles. Marie Viennot a joint son président, Alexandre Sobo.
Vu la méthode, il n'y a pas de garantie à la fin de ce qui sera décidé, puisque le Premier ministre a dit que c'était au Parlement de fixer les curseurs. Dans le contexte fiscal et politique français, on voit beaucoup d'attentisme. Des gens qui suspendent des investissements, qui reportent des projets, qui attendent de voir comment la situation va évoluer, qui s'inquiètent aussi des difficultés de l'Europe à avoir un vrai agenda de compétitivité, des conséquences des droits de douane mis en place par les Américains, l'agressivité commerciale chinoise. On a un écosystème et un environnement qui est particulièrement particulièrement inquiétant pour de nombreux secteurs de l'industrie française et européenne. C'est pas le moment de s'éloigner de ce qui rendrait l'industrie française plus compétitive, c'est-à-dire un niveau de taxation qui soit équivalent à ceux de nos grands voisins, en particulier allemands, italiens, espagnols. On a des impôts de production qui sont plus de deux fois supérieurs à la moyenne européenne. On paye 120 milliards d'euros de plus d'impôts que si on nous appliquait la fiscalité allemande. Et donc on a un handicap de compétitivité qui est très élevé et les dispositions votées au Parlement ne font qu'aggraver cet écart au lieu de le réduire comme ça avait été le cas depuis 2014-2015 avec le pacte de responsabilité et les premières décisions courageuses prises par François Hollande.
Alexandre Sobo, le président de France Industrie. La discussion budgétaire se poursuit cette semaine à l'Assemblée avec le budget de la Sécurité sociale. Demain, les députés voteront sur la suspension de la réforme des retraites. Le texte qui intègre désormais les carrières longues, c'était une demande du Parti Socialiste. Plusieurs associations françaises dénoncent la censure de leur publicité sur les plateformes du groupe Meta, notamment Facebook et Instagram. Depuis un mois, le géant américain interdit toute publicité à caractère politique, électoral, mais aussi social sur ses réseaux sociaux. Le groupe de Mark Zuckerberg affirme vouloir se mettre en conformité avec un règlement européen entré en vigueur en octobre dernier, un texte sur la transparence et les publicités politiques. Jeanne Serrin, bonsoir.
Bonsoir.
Cette décision de Meta fragilise la communication de ces associations.
Oui, celle d'UNICEF notamment. L'association avait prévu de lancer cet automne une campagne d'appel aux dons pour les enfants de la bande de Gaza, mais tout ne s'est pas passé comme prévu, raconte Marie-Charlotte Brun, directrice marketing de l'association.
À ce jour, ce que je peux vous dire, c'est que 80% des publicités que l'on essaye de faire passer, qui sont essentiellement des vidéos, accompagnées d'un texte évidemment, sont bloquées.
Un message s'affiche, cette publication enfreint nos règles publicitaires, ce qui contraint les équipes à réécrire leurs posts.
Là, j'ai cet exemple très concret d'une publication qui disait « Aider les enfants de Gaza, victimes de la guerre et de souffrance », qui a été remplacée pour que ça puisse passer par « Aidez-nous à donner un avenir aux enfants de Gaza ».
Un message bien trop flou, regrette Marie-Charlotte Brun. La Fondation des femmes, Médecins sans frontières, SOS Homophobie, le réseau Action Climat, toutes ces associations disent-elles aussi être concernées par le blocage de leur contenu. De son côté, Meta estime seulement se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation européenne. Mais ce n'est pas l'avis de Sandro Gozzi, le député européen rapporteur du texte. Il dénonce une lecture abusive, car ces appels aux dons, rappelle-t-il, sont tout à fait conformes aux nouvelles règles.
C'est de la mauvaise foi. Elle ne vise pas à influencer les résultats d'une élection ou d'un référendum. Mais Meta est en train de faire une sale guerre contre les lois européennes. Il invoque les règlements sur la publicité politique parce que Meta ne veut pas appliquer les règles de transparence. Ils sont des menteurs. C'est de la manipulation très grave.
D'autant que cette décision de l'entreprise américaine intervient dans un moment crucial pour les associations, car c'est durant la période des fêtes que les Français font le plus de dons.
Explication signée Jeanne Serrin. En Allemagne, la justice a infligé aujourd'hui un revers à un autre géant du web, OpenAI. Un tribunal de Munich a estimé que le créateur de ChatGPT avait violé les droits d'auteurs allemands en reproduisant sans autorisation des paroles de chansons protégées. On retrouve à Berlin Sébastien Baer, correspondant de France Culture en Allemagne. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Sébastien, ce procès, c'est une première en Europe.
Eh oui, c'est une affaire qui a débuté il y a tout juste un an quand GEMA, la société allemande de gestion des droits d'auteur, a porté plainte contre OpenAI. Le groupe lui reproche d'avoir utilisé des paroles de chansons pour entraîner son intelligence artificielle. 9 titres sont au cœur du litige, des textes de chanteurs très populaires ici outre-Rhin comme Reinhard May, Herbert Grönemeyer, Helene Fischer qui soutenaient d'ailleurs cette action en justice. GEMA représente 100 000 artistes en Allemagne. La société accuse OpenAI d'avoir utilisé les textes comme une matière première gratuite et de les avoir enregistrés avant de les mettre ensuite à disposition de ses utilisateurs, là encore sans autorisation ni contrepartie. Le tribunal a jugé la plainte fondée. La question des dommages et intérêts sera évoquée plus tard dans le cadre d'une autre procédure. Pour les avocats de GEMA, cette décision de justice envoie en tout cas un message clair à l'industrie mondiale de la tech et pourrait faire jurisprudence en Europe. De son côté, OpenAI a exprimé son désaccord après l'audience. La maison mère de ChatGPT affirme que ses serveurs ne stockent aucune donnée individuelle, mais reflète ce qu'ils ont appris pendant leur phase d'entraînement. Le groupe demande aussi que la législation européenne s'adapte aux réalités de l'intelligence artificielle.
Merci Sébastien Baer en direct de Berlin. Le temps demain, une douceur inhabituelle s'installe sur tout le pays. Il pleuvra de la Bretagne au Cotentin, mais aussi du côté du Golfe du Lion. Ailleurs, le soleil devrait s'imposer après les brouillards matinaux. Les températures minimales iront de 2 à 16 degrés. L'après-midi, les maximales sont en forte hausse, entre 14 et 20 degrés en général, jusqu'à 27 degrés dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique Alexandre Dang.